Les interviews du Club Info du Collège Jastre.
Aujourd'hui, nous sommes sur Info RC en compagnie du Club Info du Collège de Jastre dans quasiment toute sa totalité. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Marion Boissier, co-autrice de la BD dessinée Il est où le patron, dont vous avez sans doute entendu parler.
Alors bonjour Marion, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ?
Oui, bonjour. Du coup, vous m'avez présenté, effectivement, là je viens pour parler de la bande dessinée Il est où le patron ? Le sous-titre c'est Chroniques de paysanne. Donc on a été, ça je vous le raconterai peut-être un petit peu après, 5 autrices, moi je suis une de celles-ci et j'ai écrit en tant que, on va dire, ma casquette de paysanne, c'était des pratiques de maraîchage et d'apiculture. Donc je fais ça dans une partie de ma vie. Et actuellement, dans une autre partie de ma vie, je travaille pour une association qui s'appelle les CIVAM. C'est une association qui fait connaître l'agriculture durable et locale sur son territoire et qui a un volet qui réfléchit aux questions de genre en agriculture, donc notamment redonner une plus grande place aux personnes qui ne sont pas des hommes, donc notamment les femmes. Et donc il y a un réseau qui s'appelle Frangine 07, qui est du coup un réseau qu'on dit en mixité choisie, de personnes qui sont soit des paysannes ou des femmes qui habitent en ruralité et qui se retrouvent et s'organisent pour essayer de, on va dire, avoir plus de droits et plus de place. Et qui se sont appuyées aussi sur notre bande dessinée. Enfin, ça a beaucoup fait résonner des expériences quand elles ont lu notre bande dessinée. Et c'est à la croisée de plusieurs enjeux, on va dire.
Alors donc, pour se concentrer sur la BD, donc, qui est sortie en 2021, suit pendant une année 3 personnages qui travaillent dans le milieu de l'agriculture et qui vont faire face aux injustices qu'elles subissent. Car oui, ces 3 protagonistes sont des femmes.
Tout d'abord, comment vous êtes-vous retrouvée à travailler dans ce projet ?
Alors, c'était une longue histoire que je vais essayer de résumer. En fait, on ne se connaissait pas toutes. Donc, on était 5 paysannes et une dessinatrice. Et on se connaissait toutes par l'intermédiaire des autres. C'est-à-dire qu'on connaissait toutes l'une ou l'autre, mais on ne se connaissait pas toutes ensemble. Et à un moment, on était quelques-unes à avoir fait partie d'un projet qui s'appelle du Théâtre Forum. C'est une forme de théâtre où on présente dans une première partie des scénettes de la vie quotidienne et où des scénettes qui mettent en avant des discriminations qui peuvent avoir lieu, des situations d'oppression. Et après, dans une deuxième partie, on propose au public de venir remplacer certains des personnages pour imaginer comment ça aurait pu se passer autrement. Et du coup, on a été plusieurs à faire partie d'un théâtre forum sur le sexisme en milieu rural et notamment en agriculture. Et du coup, c'est un petit peu autour de ce théâtre forum-là qu'on a été quelques-unes à se rencontrer et à se dire « Ah, la difficulté avec le théâtre forum, c'est qu'il faut aussi qu'on soit toutes présentes pour pouvoir le faire. » Alors que la BD, on se disait, ça peut être un support où on peut le diffuser sans être nous physiquement présentes. Et comme en agriculture, c'est quand même des métiers qui sont assez prenants. On avait du mal à se libérer toutes pour se retrouver ensemble. Donc, une des raisons de la BD, c'est celle-ci. Après, c'est aussi qu'on aimait toutes bien la bande dessinée, que c'est un support qu'on trouve qui permet de dire des choses importantes, mais aussi des fois avec une forme légère et sans être trop ce qu'on appelle didactique, c'est-à-dire on ne veut pas donner des leçons aux gens, mais ça permet de lire pas mal de choses sur les réactions des personnages, etc., de voir un peu la subtilité aussi et la complexité des situations. Donc voilà, on s'est dit, on était assez contentes de pouvoir traiter de ces questions-là qui sont pas marrantes, mais d'une manière assez... assez décalé, puis d'en faire quelque chose, de pouvoir ensemble écrire, en fait, écrire un livre, c'était quelque chose qui nous a aussi donné de la force.
Et donc, plus précisément, je mets des guillemets, quel était en fait votre rôle dans la création de cette BD ?
Ouais, alors déjà, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'effectivement, toutes les autrices de cette BD, on a quand même fait des études pas seulement agricoles. Et je pense que ça nous a permis aussi de pouvoir prendre un peu du recul et de la distance sur qu'est-ce qu'on fait, enfin, de pouvoir réfléchir sur nos pratiques agricoles, ce qui est pas toujours, enfin, quelque chose qu'on apprend quand on fait que des études agricoles. Et du coup, après, on avait quand même toutes des... Enfin, en tout cas, les cinq paysannes, on avait des rôles assez similaires. C'est-à-dire que... Alors, d'abord, on a récolté des récits. Donc, je pense qu'on en reparlera peut-être après aussi sur comment ça s'est passé exactement. Mais ensuite, on a organisé tous ces récits qu'on avait reçus, donc des récits de vécu de sexisme en milieu rural. On les a organisés en se disant qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui est un petit peu la même chose dans telle ou telle expérience. Et ensuite, on a essayé d'en construire une histoire et de construire les personnages aussi, d'imaginer qui avait pu vivre quoi. Et ensuite, on s'est réparti différentes planches, différentes anecdotes en se disant « bah toi, tu vas dessiner celle-ci ». Alors, on est à la radio, je ne peux pas vous les montrer, mais j'avais amené, on pourra regarder après, j'avais amené aussi les brouillons qu'on avait fait, parce que donc nous on a dessiné, mais on sait pas dessiner. Alors on a fait des petits bonhommes ou bonnes femmes bâtons, comme on disait. Des fois on entourait en disant alors ça c'est une table, ça c'est un chien, parce qu'on savait pas les dessiner. Mais pour dire, on faisait ce qu'on appelle donc le storyboard, donc le découpage des séquences qu'on dessinait donc de manière très très grossière et avec les dialogues aussi. Et après on les donnait à la dessinatrice, qui, elle, faisait un premier jet en brouillon avant de faire la dernière version finale qu'on voit dans la BD. Elle nous faisait valider le brouillon en nous disant « Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dessiner ?» Et ça, on le validait tout ensemble. Donc on avait tout ce rôle de, quand même, à la fois, on dit autrice dans le sens où on a écrit l'histoire, mais on a quand même aussi, et la dessinatrice, elle a participé quand même à l'écriture aussi de l'histoire. Et nous, on a participé au dessin d'en construire un petit peu, imaginer les découpages, etc., même si voilà, c'est pas nous qui avons fait le rendu final.
Et pour parler plus d'agriculture, pensez-vous que l'égalité a été atteinte dans le monde de l'agriculture ?
Non. Après, pour le coup, comment dire ? Déjà, je pense que c'est pas propre à l'agriculture. Enfin, j'ai l'impression que nous, on a parlé de l'agriculture parce que c'est le milieu dans lequel on travaille et du coup, qu'on connaît bien et on avait envie de parler de cet endroit-là. Mais on veut pas dire non plus que... je pense que les formes que peuvent prendre le sexisme, les discriminations dans le milieu agricole, elles sont spécifiques au milieu agricole, mais que le fond, en fait, il est une construction de quand même globalement toute notre société, et donc on peut retrouver ça dans plein d'autres corps de métier. Donc ça, c'était important pour nous de pas dire que c'est pire en milieu rural qu'ailleurs, ça peut être différent et prendre différentes formes. Et quand je dis je pense pas que ce soit atteint, c'est aussi que j'ai l'impression que ça rejoint un peu à tout un changement de pensée de fond, et donc c'est quelque chose qui est encore en cours, et ça peut, enfin il y a des choses qui bougent très clairement, déjà ça devient un sujet et on peut en parler, et ça c'est déjà énorme, en fait on peut dire des choses, et ça c'est, enfin voilà, c'est déjà plein de pas en avant. Après clairement il y a encore, même quand on regarde des chiffres, des enquêtes, etc., enfin, il y a encore des grosses, grosses inégalités. Les plus visibles, on va dire, ça va être en termes de, éventuellement de rémunération, mais aussi de statut. Je parlais tout à l'heure des droits, etc. Enfin, il y a des grosses disparités. Donc voilà, c'est encore à poursuivre et à réfléchir. Mais aussi, dans des choses des fois plus de l'ordre du quotidien, on voit que bah, c'est pas acquis, quoi. Mais voilà, c'est encore en cours et ça, c'est en mouvement.
En fait, les personnages de votre BD font face à des propos, à des personnes et des situations complètement misogynes. Et donc, est-ce que c'est inspiré, je suppose que c'est inspiré d'expériences vécues, et est-ce que vous pourriez nous en dire quelques-unes si vous vous sentez confortable ?
Alors... Oui, c'est des expériences vécues, et comme je commençais à dire tout à l'heure, pas que par nous, les cinq paysannes. C'est-à-dire, on a aussi récolté les témoignages d'autres personnes de nos entourages. Enfin, ce qui était assez impressionnant, c'était des fois, il y a eu des personnes différentes qui nous ont partagé presque le même récit. Enfin, ça, c'était des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a eu des retours à des moments de la BD, de personnes qui nous disaient « Mais c'est ma vie que vous racontez !» Enfin, il y a eu des choses qui sont... assez parlante, D'ailleurs, c'est pour ça que nous, ça nous a fait conclure aussi que c'est pas que de l'ordre d'histoire individuelle, mais quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, c'est lié à des constructions de comment fonctionne notre société, enfin, ce qu'on va appeler un système, en fait, qui organise, puisque comme ça, des gens qui se connaissent pas vont vivre la même chose. On se dit peut-être que c'est pas, enfin, voilà, que c'est quand même quelque chose qu'on peut analyser un peu plus largement. Et en tout cas, effectivement, il y a par exemple dans certaines des scènes du marché, on est plusieurs des paysannes du collectif Les Paysannes en Polaire, là, qui a écrit cette BD, à faire un marché ensemble, un marché associatif, en plus un petit marché. Et c'est vrai que des fois, même là dans le marché et avec des autres producteurs qui sont plutôt sympathiques par ailleurs, ça arrive qu'on a des réflexions comme ça. Donc il y en a certaines qu'on a pu mettre en avant. Il y a une planche de la bande dessinée où on voit accumuler sur une seule planche tout plein de on va dire, petites remarques qu'on peut entendre par-ci, par-là. Et en fait, on voulait les mettre toutes sur une planche en disant, mais en fait, des fois, ça fait vraiment un effet d'accumulation. C'est-à-dire que quand tu en entends qu'une, tu te dis, oui, bon, ça va, c'est pas très grave. Mais qu'en fait, quand tu les accumules toutes ensemble, ça fait vraiment un effet assez accablant. Par exemple, enfin voilà, il y en a, elles sont pas toutes celles que moi j'ai entendues, mais pareil, même si je les entends et qu'elles me sont pas adressées, ça va quand même aussi me choquer ou m'impacter. Enfin, je vais me sentir assez concernée. Et après, oui, il y en a, elles sont toutes. En fait, c'est toutes des histoires vécues, donc soit par moi, soit par les copines paysannes, soit par des copines de copines, enfin ou des paysannes qui nous ont transmis ça. Et c'est vrai qu'elles sont toutes assez. Comment dire, pour moi, elles sont toutes assez parlantes. Et après, on se reconnaît plus ou moins dans certaines. Il y en a qu'on n'aurait pas pu vivre soi-même. Par exemple, toutes celles qui concernent Colline, qui est mère de famille, moi, je peux pas les avoir vécues parce que j'ai pas d'enfants. Enfin, voilà, il y en a certaines qui sont spécifiques à des vies. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait envie, d'ailleurs, d'avoir trois personnages qui ont des vies assez différentes pour pouvoir représenter le plus de situations possibles. Et encore, elles peuvent pas être toutes représentées parce que c'est que trois personnages et que chaque vie est différente. Donc voilà, mais déjà, on voulait montrer qu'il y avait une diversité de manières de vivre les choses selon comment on était installé, quel type de famille ou pas de famille, ou quel âge on avait. Et dernière précision, dans les récits qu'on a reçus, comme c'est que des anecdotes et des expériences vécues, on n'en a pas inventé d'autres. Donc, quand je disais, c'est pas exhaustif, par exemple, on n'a pas eu de récits de personnes d'autres couleurs de peau que nous, c'est-à-dire on est toutes blanches. Et donc là, on n'a pas inventé les vécus de ces personnes, parce qu'on s'est dit, bah, ce serait encore pire. Donc, on n'a que les récits de personnes qui nous ont partagé leurs récits, quoi.
D'accord. Et pour revenir sur les personnages, y a-t-il des similitudes de parcours entre vous et les personnages ?
Alors oui. Alors oui et non. C'est-à-dire, enfin, aussi des similitudes, il y en a. Des fois, on nous demande, ah, mais est-ce que c'est toi tel ou tel personnage, ou est-ce que c'est toi tel ou tel ? En fait, il y en a aucune qui est exactement superposable à aucune d'entre nous. Et en plus, moi, à des moments, je vais plus me reconnaître dans l'une ou dans l'autre. Alors, comme je disais, dans Colline, un peu moins, parce que c'est, on va dire, le modèle qui correspond le moins à ce que moi je vis. Mais des fois, entre Joe ou Anouk, il y a des choses qui vont pouvoir me parler très fort. Et ce qui était drôle, c'est qu'à des moments, quand on essayait de trouver la bonne formulation pour transcrire les anecdotes qu'on nous avait dit, on disait, mais non, mais ça, en fait, Colline ou Anouk, elle le ferait jamais. Enfin, comme si on les connaissait vraiment. Et il y a des fois où je pense qu'on nous disait, mais non. Enfin, moi, il y a des moments où j'ai dit, ah non, non, mais pour moi, c'est vraiment important qu'elle dise ça comme ça et pas comme ça. Et je pense que c'est parce que ça rappelait un peu ce que moi, des fois, soit j'ai pu dire ou vivre, ou soit ce que j'aurais pu vouloir dire à des moments, de pouvoir aussi dans la BD se dire, ah bah, là j'ai pensé ça. D'ailleurs, à nous, qu'il y a plein de fois où elle pense plein de choses dans sa tête et elle n'arrive pas à le dire. Et ça, des fois, c'est un peu, ça peut être un peu mon cas de me dire, ah oui, j'aurais voulu dire ça ou ça ou ça, ou alors je suis bloquée. Et voilà. Et en même temps, les réussites de des fois, ah oui, là je suis bien arrivée à le dire et je suis super fière de me dire, même si ça a l'air de rien, de pouvoir en fait réagir et visibiliser que ça m'allait pas. Enfin, c'est un peu une des victoires de Anouk qui commençait à arriver à dire les choses. Enfin, je veux pas spoiler pour les personnes qui l'auraient pas lu, mais elles ont un peu chacune aussi leurs enjeux et leurs victoires. Quand on les suit comme ça dans l'année, dans la saison, on voit qu'elles se renforcent aussi à force d'échanger sur ce qu'elles vivent et de leurs expériences, de partager et comment elles s'en sortent ou quelles galères elles ont eues. On sent que de plus en plus, elles arrivent à s'affirmer. Et ça, je pense que nous, on l'a vécu entre nous six aussi. On a changé, en fait, au fur et à mesure de l'écriture de la bande dessinée. Parce qu'on sait partager toutes nos expériences. Alors, on ne les a pas toutes mises, mais des fois, même quand on se retrouvait pour écrire, on se disait « Oh, tu sais pas la dernière qui m'est arrivée ?» Puis alors, des fois, « Oh, on va le mettre dans la BD. » Non, c'est bon, on en a déjà cinq des expériences qui racontent ça, donc on ne va pas la rajouter encore. Mais le fait d'en parler, de se dire « Mais du coup, tu as réagi comment ?» Enfin, je pense que... À des moments, ça nous a permis aussi, nous, de se renforcer et de se dire « Ah ben oui, en fait, on va aussi porter la parole d'autres, mais la nôtre aussi. » Et du coup, de se dire comment on avance avec tout ça et comment on se sent plus légitime, on se renforce. Quoi. Enfin, je l'ai dit trois fois.
Et donc, quand vous vous êtes présenté, vous avez dit que vous étiez aussi maraîchère et apicultrice, c'est ça? Et donc, quelles sont vos convictions et vos pratiques
Alors, c'est vrai qu'en plus, même une précision, des fois je dis je fais du maraîchage et de l'apiculture, et plus que je suis maraîchère et apicultrice. Mais après, ça, c'est des petites nuances à des moments, mais je pense qu'il y avait aussi une question, c'est de dire c'est une de mes activités et c'est pas mon identité, par exemple. C'est pour ça que je fais cette précision-là. Je dis je fais ça et je le fais, par exemple, dans une ferme collective, donc on est plusieurs à le faire. Sur le maraîchage, on est deux. Sur l'apiculture, je suis seule à être référente. Mais je pense que ces activités-là, elles me font en tout cas questionner nos modes de faire et nos modes de fonctionner en société en général. Le fait de pouvoir en discuter avec d'autres, c'est assez important. En plus, alors j'ai assez peu de ruches, mais je sais que, en tout cas, le fait d'avoir que ce soit une activité et pas la seule pour moi, et de pouvoir avoir d'autres activités économiques qui permettent pour moi de pas dépendre que de l'agriculture pour vivre, c'est très précieux, mais très particulier dans le monde de l'agriculture. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des choix et des expérimentations parce que mon activité n'est pas directement liée à l'économie. Du coup, c'est pour ça que je peux parler de mes convictions, mais je veux pas que ce soit une vérité générale. Enfin, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que en fonction des systèmes économiques dans lesquels on est, on peut pas faire les mêmes choix. Et du coup, c'est vrai que dans les pratiques que nous, on essaye de mettre en œuvre, ça va être le plus possible de réfléchir à quel impact les humains ont sur le végétal, donc forcément le végétal et l'animal avec les abeilles, et en fait de se repositionner, de se dire en fait effectivement... En fait, dans l'agriculture et notamment dans l'élevage, on a aussi quand même les humains cette tendance générale à tout vouloir organiser, tout vouloir contrôler, alors qu'en fait, ça peut exister sans nous. D'ailleurs, je sais que des fois, je réagis un petit peu sur le nom d'une ferme. En général, ça s'appelle une exploitation agricole. Et moi, j'avoue que dans mes pratiques, j'ai pas envie d'exploiter. Et donc ça me pose toujours question, en fait, que ça s'appelle, quand on dit vous êtes exploitante agricole, je suis là, non. Alors en plus, je le suis pas de mon statut, parce que mais notre ferme porte le statut, effectivement, d'exploitant agricole. Je le suis pas individuellement, mais c'est notre ferme collective qui le porte. Mais en tout cas, effectivement, de se repositionner, de se re-questionner sur qu'est-ce que c'est notre rapport d'exploitation, comme ça, à d'autres formes de vie. Voilà, je me suis un peu éloignée, ça peut paraître à des considérations un peu philosophiques, mais qui, en fait, je pense, vont pouvoir s'incarner après, si on avait le temps, je pourrais décrire plus dans des modes de pratique ou de culture, en tout cas d'avoir vraiment ces questionnements-là quand on fait des choix, pour moi c'est assez important. Et je pense que, je l'évoquais juste avant qu'on commence l'interview aussi, de se dire « Ah, mais... » c'est aussi parce que, par exemple, on va dire... l'accès au statut d'exploitant agricole, il n'est pas évident pour les personnes qui sont par exemple des femmes. Enfin, elles ne sont pas majoritaires dans ces statuts-là. Mais du coup, le fait de ne pas avoir eu accès à ces statuts va questionner et va permettre aussi explorer d'autres manières de faire. Et je pense que des fois, le fait de ne pas avoir accès au modèle dominant va faire qu'on invente d'autres pratiques. Et du coup, effectivement, les femmes, elles sont souvent assez représentées dans des pratiques dites alternatives, peut-être des fois des formes d'exploitation agricole, enfin des surfaces en tout cas de fermes plus petites, ou des fois où il va y avoir davantage la qualité que la quantité qui va pouvoir être valorisée. Donc par exemple des pratiques davantage en bio, ou etc. Enfin voilà, ça va être aussi, je pense, c'est potentiellement une des conséquences du fait que le modèle principal n'est pas si accessible. Bah, il faut trouver d'autres manières de faire. Mais qui est en fait, après, qui a aussi de vrais impacts dans une réflexion globale, dans le fait de se dire, bah, en fait, comment ça se fait qu'on n'a pas de place alors qu'on propose des choses qui sont plus durables et plus viables pour tout le monde. C'est aussi ensuite un impact dans les modèles plus généralisés, enfin les modèles plus dominants d'agriculture, enfin de commencer à considérer par exemple ce qu'on appelle l'ergonomie, le comment on fait notre travail physiquement, enfin comment on adapte aussi les postures, les outils pour essayer de préserver nos corps, parce que c'est des activités qui font quand même bien solliciter le corps et qui fatigue physiquement. Et ça, en fait, je pense que ça sert à tout le monde. Et même si ça a été très fort porté par des personnes qui sont des femmes, bah, ça commence à être un petit peu réapproprié par tout le monde et réinvesti par tout le monde, quoi.
Et vous parliez tout à l'heure du fait de l'importance de se regrouper et pour parler entre agriculteurs, agricultrices. Pourquoi est-ce que c'est important selon vous ?
Bah, ça, c'est sûr que pour le coup, moi, ça, c'est une de mes convictions assez fortes. Dans pas mal d'endroits de ma vie, je crois à ça, au fait de se mettre à plusieurs, parce que je me dis, bah, à plusieurs, on est plus fort ou plus forte. Et notamment, j'ai l'impression que quand on vit des situations de violence, la pire difficulté, c'est de les vivre seul. Et je pense que de pouvoir en fait se rendre compte que c'est pas soi-même qui en est responsable, par exemple, et de pouvoir échanger avec d'autres et de se dire « Ah, mais en fait, toi aussi, tu vis ça, et toi aussi, tu vis ça. » Et du coup, peut-être qu'en fait, on peut partager sur comment est-ce qu'on arrive à le dépasser, ou comment est-ce qu'on arrive à résister à ça, ou comment est-ce qu'on arrive à le visibiliser, à le montrer que ça existe. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que déjà le fait de pouvoir en parler, comme je disais, en fait, ça soulage la personne individuellement, qui reste pas seule avec ça et qui, avec sa honte, des fois, enfin, souvent quand il y a des situations de violence, elles vont être honteuses et donc pas racontées. Et le fait de pouvoir en parler à une ou plusieurs personnes, mais va faire qu'en fait, on se dit, mais en fait, on a le droit d'en parler. Et des fois, il y a un petit peu ces slogans qui disent que la honte change de camp, en fait, parce que ce soit les personnes qui ont fait subir les violences qui aient honte et pas celles qui les ont subies. Enfin voilà, là, je parle de violence, mais parce que ça, pour moi, il y a on va dire ce qu'on appelle les violences qui sont les plus graves ou les plus traumatisantes, elles démarrent des fois dans des petites choses, dans ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, dans des interactions du quotidien. Et du coup, de pouvoir déjà déjouer ça avant que ce soit trop avancé ou trop grave. En tout cas, c'est une des choses que, pour moi, a permis la bande dessinée, quand on en a discuté toutes, c'était de se dire, oui, en fait, ça se passe aussi dans le quotidien et aussi avec des personnes qu'on aime. Il y a déjà les prémices de ça, et que ça, pour moi, on le voit mieux à plusieurs, et de sortir un peu de cette solitude, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est un des éléments qui est vraiment difficile à surmonter. Et en même temps, des fois, il y a des personnes, on n'a pas de solution, enfin, elles sont isolées, c'est une des choses, effectivement, dans le milieu agricole, juste géographiquement, des fois, les personnes sont loin les unes des autres, mais on sent que ça, c'est un des éléments qui fait aussi que le sexisme peut encore être très très fort et très violent pour certaines personnes, mais que quand même, en fait, le fait d'en parler, bah, de faire des émissions de radio, par exemple, ça, les personnes, elles peuvent l'écouter même quand elles sont seules. Et du coup, je pense que c'est super important, effectivement, de pouvoir en parler et de pouvoir se dire, ah, y a des réseaux qui existent et que on peut échanger, multiplier un peu les espaces d'échange, de discussion à ces sujets, ça me paraît très important.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et à votre grand bonheur, ce n'est pas terminé car nous passons maintenant aux questions du public.
Question de Kerwan.
J'aimerais juste savoir, si vous n'aviez pas été agricultrice, quel métier auriez-vous fait ?
Alors, je peux même tricher un peu parce que avant d'être agricultrice, enfin en tout cas avant d'être paysanne, je faisais autre chose et je travaillais je faisais ce qu'on appelle de la médiation culturelle, c'est-à-dire que je faisais le lien entre des artistes et des spectateurs ou spectatrices pour organiser des fois des ateliers, des rencontres, des discussions. Alors que je venais plutôt de la campagne, il y avait mon papa qui est apiculteur, et en fait je me suis dit « Ah, mais j'ai aussi envie de faire des choses autour de l'artistique ». Et des fois j'ai un peu envie d'y retourner, mais je pense que la bande dessinée c'était aussi une occasion de faire quelque chose un peu plus artistique, enfin de lier aussi deux choses qui m'importent fort dans la vie.
Re-question de Kerwan.
Sinon, en parlant de la bande dessinée, est-ce que vous êtes fier de votre livre ? Et s'il y avait une autre chance, est-ce que vous auriez changé l'histoire ?
Alors, j'aime bien cette question parce qu'effectivement, on s'est rendu compte parce que parce qu'on était plusieurs, on arrivait à en être fier. Parce que des fois, on se disait... Il y a un peu la pudeur de dire « Ah non, on peut pas dire qu'on est fier d'avoir fait ci ou ça », enfin, par humilité. Et en fait, là, le fait de l'avoir fait à plusieurs, ça fait que moi, je sens que j'arrive à être fière de dire « Bah oui, mais on l'a, enfin, c'est super aussi parce que les autres l'ont fait. Enfin, je peux être fière des autres et du coup, en m'incluant dedans en même temps. » Donc ça, c'est assez chouette de pouvoir effectivement être fière de l'avoir fait à plusieurs. Et oui... Je le referai pas différemment, mais si aujourd'hui on faisait la BD, ça serait différent. Ça, c'est sûr, parce que justement, il y a des choses qui ont changé depuis, il y a des choses qui changent encore, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a peut-être un film qui va être fait en adaptation de cette bande dessinée, et où les personnes nous ont dit comment on va. Elles essaient de reprendre les personnages et de montrer justement d'autres enjeux qui seraient plus actualisés. Ce sera peut-être une suite de la BD, mais autrement, sous une autre version. Parce qu'à un moment, on nous a demandé de faire la suite de cette BD, le tome 2. Et on a dit, bah non, c'était de toute façon, le but, c'était pas de raconter toute leur vie à ces personnages. Enfin, c'est déjà juste un petit bout et on n'a pas envie de refaire la même chose. Mais peut-être, du coup, qu'un film, il pourra donner à voir autre chose.
Question de Louaï.
Tu peux te rapprocher, s'il te plaît. Si vous faites une suite, comme un tome 2 ou quelque chose, une suite, ben, au cinéma, ben... Est-ce que ça doit être animé ou filmé ?
S'il y a une adaptation au cinéma, effectivement, les réalisatrices qui envisagent de le faire, elles voudraient que ce soit plutôt filmé, et notamment avec que les personnages principaux, elles soient des paysannes elles-mêmes. Donc, et qu'il y ait des acteurs et des actrices professionnelles autour, mais que les trois héroïnes, ce soient vraiment des paysannes, donc elles adapteraient aussi, mais plutôt filmées.
Question de Kerwan.
S'il y a un film de ce genre au cinéma, est-ce qu'il sera retranscrit sur des plateformes ?
Ça, je ne sais pas encore, parce qu'il n'est pas fait, le film.
Question de Sam.
Moi, j'avais une question, je ne sais pas si vous pourriez y répondre, parce que c'est plus au niveau du dessin et des techniques utilisées. C'est quoi les techniques qu'on a utilisées pour dessiner ? Parce que vous nous avez dit que vous aviez dessiné les storyboards et tout ça. Mmh. Mais est-ce qu'elle les a fait numériquement, en papier ?
Alors non, effectivement, c'est une spécificité de cette bande dessinée, c'est qu'elle a tout fait à la main. Et c'est plus très courant aujourd'hui que ce soit... Même la couleur, elle est faite à la main aussi. Et du coup, c'était aussi long. Par exemple, si on devait changer des choses, pour le coup, il fallait qu'elle refasse toute la planche. Enfin, c'était... À part, il y a juste le texte qui a été découpé et qui a pu être modifié séparément. Et elle a fait, en fait... D'abord, elle faisait... Alors, effectivement, je suis pas sûre d'avoir les bons termes pour les outils, mais elle avait des crayons pour un peu le tout de la partie noire, etc. Et elle avait un pinceau à eau pour les aquarelles et les ancrages. mais tout est fait à la main et donc sur papier. Et ensuite, tout a été scanné avec chez un imprimeur qui a des scanners de haute précision, on va dire, pour bien garder le trait, etc.
Moi, je me demandais à propos du CIVAM, parce que je vois qu'il y a d'autres actions qui sont faites au sujet du genre. Et je me demandais comment le CIVAM se positionne par rapport à ça.
Et ben oui, effectivement, je disais, il y a donc un groupe qui s'appelle le Frangine 07, sur lequel je suis missionnée pour quelques mois, et qui met en place différentes actions pour réfléchir à ces questions, et qui ont été réalisées une enquête auprès de 12 agricultrices de Drôme et d'Ardèche, qui a donné lieu ensuite à une exposition, un film et une exposition qui s'appelle « Je tue elle, femme en agriculture ». Donc ça, on continue à les diffuser, à les proposer. Mais en fait, le CIVAM fait aussi partie d'un réseau plus large au niveau national. Ça existe dans plusieurs départements, le CIVAM. Et il y a aussi, par exemple, un plaidoyer des gens ronds, l'agriculture, qui est paru pour justement donner tout un argumentaire sur ces questions-là. Enfin, il y a vraiment toute une dynamique qui se trouve à la fois au niveau de l'Ardèche, mais au niveau de tous les CIVAM, pour discuter de ces questions. On met en place aussi des formations, on met en place... un peu aussi à la demande des personnes concernées, tout un tas d'actions pour participer de l'émancipation, l'accès aux droits, la réflexion. Il y a encore des choses qui sont à venir, mais c'est un des axes, effectivement, de mon travail.
Je crois que c'est terminé pour les questions.
Merci beaucoup, Marion, d'avoir pu venir et d'avoir répondu à nos questions de la part de tout le Club Info et de moi, Marina, et Romane qui était aux questions et de Yvan qui était à la technique. Et c'est la fin de cette interview.
Club Info Jastre.